Radio Okapi.
Les informations, c'est tout de suite avec Pascal Massirica.
Okapi. Bonjour à tous. En Ituri, dans la province orientale, il y a paralysie d'activité depuis ce lundi matin au palais de justice à Bounia. Et pour cause, le nouveau procureur de la République près le tribunal des grandes instances de cette entité est mort aujourd'hui dans la matinée ici à Kinshasa. Selon ses proches, Sylvanus Fiamma a été évacué hier dimanche après-midi de Bounia par un régulier de la compagnie CAA pour la capitale après avoir été malade pendant une semaine. Le défunt venait de rejoindre son poste d'attache à Bounia comme procureur de la République, voici seulement 3 semaines. La MONUSCO met tout en œuvre pour assurer la sécurité de la population afin de mettre un terme au règne des groupes armés au Nord Kivu. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche à Goma le chef de bureau par intérim de la MONUSCO. Il réagissait ainsi aux revendications de la société civile d'étendre la zone de sécurité sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et spécialement au territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Axel Kweval demande par conséquent à la population de ne pas s'attaquer à la MONUSCO sous peine d'handicaper son travail. On écoute le responsable par intérim de la MONUSCO Nord Kivu, il est au micro de Sifa Maguru.
Les habitants du Nord Kivu sont fatigués de cette guerre, et ça, alors je les comprends parfaitement. Donc pour eux, le plus tôt ça se termine, le mieux, et pour nous aussi. Si on veut se débarrasser des groupes armés, ce qui est notre objectif à tous, on doit bien se préparer. Et ça sera quelque chose qui se fera nécessairement par étapes. La première étape, c'est de sécuriser Goma, Sake et toute la région. Nous nous considérons qu'une attaque contre la zone sécurisée sera considérée comme quelque chose d'extrêmement grave et qui nécessitera une riposte de notre part. Si on veut que la MONUSCO puisse travailler mieux, il ne faut pas lui casser son matériel. C'est évident que ça n'aidera que les groupes armés. Plus on brûle, plus on casse les voitures de la MONUSCO, plus ça sera difficile. Donc c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Et puis, retour à Lubumbashi du président de l'Assemblée provinciale du Katanga après 48 heures passées dans les territoires de Mitwaba, à près de 450 km de Lubumbashi. Sur place, Gabriel Kungu-Wakumanza a appelé les Maïmaï et autres Bakata Katanga qui se trouvent dans l'espace appelé Triangle de la Mort entre Mitwaba, Poueto et Manono à la cohésion et à la paix. Il a aussi condamné les actes de barbarie, la violence et les tueries qui sont perpétrées par ces miliciens ce jour-ci. Kungu-Wakumanza cependant fustiger les menaces de mort qui ont été proférées contre sa personne vers Kasenga et Mitwaba. Il est 11h02 à Kinshasa et c'est la fin de ce bulletin de nouvelles. Merci d'avoir écouté.
Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bon début de semaine à tous en compagnie de Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. Il a été enregistré une baisse du taux des réussites aux épreuves de l'examen d'État en RDC avec 52% du taux des réussites en 2013 pour la ville de Kinshasa. Les taux enregistrés en 2012 étaient des 62% contre 69% en 2011. Cette baisse du taux des réussites est interprétée de diverses manières dans l'opinion et la seule grande préoccupation reste son amélioration. Que pensez-vous de cette baisse du taux des réussites et que proposez-vous pour améliorer? Nous en parlons avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, monsieur Makaire Mwangu. 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Titi Mputu assure la réalisation de cette émission, mise en onde par Sylvain Matundu. Pierrot et la Meiji vous la présentent sous la supervision de Nicole Ndakafi, des auditeurs. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Que faut-il faire pour améliorer les taux de réussite à l'examen d'État? Nous en parlons ensemble avec vous dans cette émission 081-890-503 qui a ce numéro d'appel pour intervenir en direct. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Merci d'avoir encore une fois de plus accepté l'invitation de Radio Okapi.
C'est avec beaucoup de plaisir que je viens chez vous ici à Radio Okapi.
Au niveau du ministère, on a parlé des 52% du taux de réussite pour la ville de Kinshasa. Est-ce qu'on a déjà la situation globale pour l'ensemble du pays?
D'ici 2-3 jours, on pourra avoir la situation générale, l'ensemble du pays, mais la tendance est plutôt à la baisse. Donc, si Kinshasa, on a eu 52%, la moyenne nationale sera certainement en deçà de 50%.
Et comment on l'explique au niveau du ministère, cette différence, cette tendance à la baisse, parce qu'on a eu quand même 69% en 2011, 62% en 2012 et qu'on soit aujourd'hui à cette baisse? Comment au niveau du ministère on explique ça?
Bon, généralement, c'est après la publication de l'ensemble des résultats que nous commençons maintenant à faire des évaluations. Tous les inspecteurs principaux provinciaux étaient à Kinshasa, ils viennent de terminer leur évaluation, je n'ai pas encore eu leur conclusion. C'est à l'issue de leur réunion que nous saurons qu'est-ce qui est vraiment à la base de cette baisse. Nous avons posé des questions, les enfants ont répondu, nous avons corrigé. C'est après maintenant qu'il faut évaluer pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais d'emblée, bon, nous sentons quand même, nous avons senti une baisse au niveau de l'encadrement. C'est pourquoi un certain nombre de mesures ont été prises pour réveiller un peu les gens, pour que l'encadrement soit beaucoup plus efficace, l'encadrement de nos élèves, l'encadrement des écoles.
Et quand vous parlez de la baisse au niveau de l'encadrement, ça se situe effectivement à quel niveau? Au niveau du contrôle, au niveau de ceux qui préparent les cours, au niveau des enseignants eux-mêmes, ou c'est au niveau des organisations des écoles?
Mais c'est à plusieurs niveaux. Quand vous allez au niveau de l'école, vous avez les enseignants. Nous avions demandé à ce que régulièrement qu'il y ait des unités pédagogiques, par exemple. Est-ce que ces unités pédagogiques se tiennent réellement? Ça, maintenant, la responsabilité incombe directement au chef d'établissement. Et à côté du chef d'établissement, nous avons installé des comités de gestion au niveau de chaque école. Si le chef d'établissement ne fait pas très très bien son travail, nous avons mis en place des responsables des parents qui doivent de temps en temps veiller sur le bon fonctionnement de l'école. Et qu'est-ce que ces comités a pu faire pour aider le chef d'établissement à améliorer l'encadrement de l'école? Alors, maintenant, si à ces deux niveaux-là, nous faisons une évaluation, on peut remonter au niveau de sous-provettes et au niveau de nos inspecteurs, chefs de poule, poule primaire comme poule secondaire. C'est à ces niveaux-là que nous allons voir aussi pourquoi nous avons eu très peu de résultats. Est-ce que l'inspecteur chef de poule a fait des rapports, a beaucoup visité ces écoles, ou qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ce que nous avons commencé à évaluer. Au niveau de la ville de Kinshasa, les résultats sont disponibles. Nous allons maintenant, que nous allons terminer d'ici 2-3 jours au niveau national, on pourra alors publier les résultats de nos évaluations.
Parole aux auditeurs.
Mais pour revenir, parce qu'il y a eu déjà quand même une tendance à la baisse entre 2011 et 2012, cela veut dire qu'on a eu quand même à faire l'évaluation en cette période-là. Et on peut déjà avoir relevé certains nombres de problèmes qui s'étaient posés en cette période et on a apporté un certain nombre de réponses, si on peut le dire ainsi. Partant bien sûr de ce qui s'est fait d'une manière antérieure, quels sont concrètement les problèmes qui ont été ciblés au niveau des écoles, que ce soit à Kinshasa ou en province, et sur lesquels vous avez apporté des résultats?
Le premier problème, comme je viens de le dire, c'est l'encadrement. Le deuxième que je peux évoquer, c'est le problème de fourniture scolaire, les manuels. Et le troisième problème que je peux évoquer, c'est celui de la formation, l'encadrement, le recyclage de nos enseignants. Voilà un peu ramassé les trois problèmes que nous avons pu constater et dont nous devons commencer à résoudre un par un, en dégageant quand même les responsabilités des uns et des autres. C'est très important. Il faut que les gens, nos différents collaborateurs qui sont en province, se sentent responsables. Si ça ne marche pas au niveau de l'école, ils doivent évaluer et ils doivent se poser des questions, chercher des solutions au niveau même, au niveau local.
Mais si on doit remonter en termes des responsabilités, vous, au niveau du ministère, où se situe effectivement la responsabilité au niveau le plus supérieur? Parce que nous sommes avec vous dans cette émission. Si on était avec les chefs d'établissement, on leur posait la question, mais vous, au niveau du ministère, votre responsabilité, c'est soit à quel niveau?
Oui, enfin, il est difficile que je dégage. Je vous ai dit que, nous, en ce qui concerne l'année passée, nous avons constaté qu'il n'y avait pas, par exemple, le problème de... Il s'est posé un problème de manuel scolaire, par exemple. Alors, nous avons multiplié, nous avons mis à la disposition des différentes écoles les bibliothèques. Nous avons demandé aux chefs d'établissement de constituer des bibliothèques scolaires. Par exemple, pour permettre aux enfants de s'habituer à la lecture. Nous avons multiplié les centres de formation à travers la République pour permettre à nos collaborateurs qui sont sur place, au niveau local, d'organiser des formations en faveur des enseignants. Ce sont les mesures que nous prenons au niveau national, mais nous avons besoin des résultats au niveau local. Donc à chaque problème, il y a quand même des réponses que une série de réponses que nous proposons au niveau local. Alors maintenant, chaque année, il faut que nous vérifions où se trouvent les responsabilités au niveau de la mise en œuvre des différentes décisions que nous prenons.
Est-ce qu'au niveau du changement du système de passation du test, est-ce qu'il se pose un problème?
Pour le moment, on ne se pose pas beaucoup de problèmes au niveau de la passation même des épreuves.
Voilà, on va revenir à vous. Le temps d'écouter Franck qui nous appelle d'Allemagne. Arsène est à Kikuit. Sylvain est à Bounia en province orientale.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes avec nous. Vous nous appelez d'Allemagne. Bonjour. Franck, vous êtes avec nous. Bonjour. Nous, on a des petits soucis, on a perdu Franck qui nous appelait de l'extérieur du pays. On rentre en RDC à Kikuit. Arsène, vous êtes avec nous. Bonjour Arsène.
Bonjour monsieur.
Vous avez suivi notre introduction avec monsieur le ministre. Nous dégageons ensemble les pistes et solutions, ce qu'il faut faire pour améliorer la situation par rapport au taux des réussites à l'examen d'État. Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup. Je salue le ministre qui est là. Moi, je vais aborder cette situation dans un sens un peu plus pragmatique. Aujourd'hui, on ne peut pas chercher quelque chose sans toutefois réunir les paramètres. Bon, moi, je prendrai l'exemple. Quand nous avons eu l'occasion d'étudier, nous aussi, il y a plus de 30 ans que j'ai terminé mes études secondaires, nous, les examens d'État, on les préparait à partir de la base, en troisième année. Déjà, on commençait à se préparer pour les examens d'État. Et il y avait du sérieux dans tout ce qu'on faisait. Et en fin de compte, quand on arrivait pendant les examens, des fois, on se retrouvait avec des exercices qu'on avait déjà travaillés au niveau de l'école. Et on n'avait pas trop de difficultés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Notre niveau d'enseignement, je crois que c'est en baisse. Il faut se reconnaître dans cette histoire-là. Tant que nous n'aurons pas compris le pourquoi, nous n'aurons pas à faire quelque chose de mieux. Parce qu'aujourd'hui, un élève qui termine ses études secondaires, en tout cas, personnellement, sont rares ceux qui sont prêts à aller dans la vie professionnelle. Ils sont rares. Pourtant, le ministre est là. Je crois, lui aussi, il a eu cette occasion-là. Dès qu'on terminait les études secondaires, on était prêts à assumer des responsabilités dans la vie professionnelle. Les études universitaires et supérieures, mais ce n'est que pour compléter. Aujourd'hui, moi je dirais, pour trouver la solution, pour que nous ayons une solution viable et que nous pouvons espérer dans l'avenir que nous aurons des cadres compétents dans cette nation, ce que nous devons faire, c'est d'abord reconnaître nos erreurs. Reconnaître les erreurs comment? L'enseignant d'abord. Après l'enseignant, vient l'école, donc les infrastructures, les bibliothèques, tout ce qui doit accompagner l'enseignant. Comment l'enseignant est traité? Est-ce qu'il est traité correctement pour aller enseigner pendant 6 heures correctement et donner ce qu'il a dans sa tête à ses élèves? Le ministre, il est là. S'il peut se comparer directement avec un enseignant qui est à l'intérieur, tel qu'ici chez nous à Kikuit, comment il mène sa vie et comment cet enseignant mène sa vie pour qu'il aille à l'école apprendre aux enfants? En fin de compte, l'élève qui va étudier, dans quelles conditions il étudie? Est-ce qu'il va correctement? Est-ce qu'il est discipliné? Toutes les conditions que l'élève doit remplir pour bien étudier. Alors là, sans hypocrisie, on saura facilement trouver la solution. On ne peut pas venir maintenant aujourd'hui se plaindre. Le taux a diminué. Mais est-ce que ce taux-là est correct? Ma question est celle-là. Est-ce que ce taux est correct sur les papiers? D'accord. Mais en pratique, prenez un élève qui termine aujourd'hui. Ces élèves, les élèves du ministre de cette année, prenez un échantillon, posez la question très simple, arithmétique de l'école primaire. vous verrez comment l'enfant va se déranger pour trouver des réponses dès l'école primaire. Donc prenons le travail de l'enseignement très au sérieux. Je ne veux pas être trop critique avec le ministre, mais je veux rappeler sa propre conscience de voir comment il a étudié, comment les enfants d'aujourd'hui étudient, quelle est sa vie, comment il mène sa vie, et quelle est la vie de l'enseignant qui va apprendre à nos futurs cadres. Bon, voilà un peu mon intervention.
Merci Arsène, je retiens, vous avez dit qu'il faut d'abord, le premier pas à faire c'est reconnaître les erreurs. Et dans la reconnaissance des erreurs, vous avez dit qu'il faut penser au traitement de l'enseignant et voir aussi dans quelles conditions l'élève apprend et remonter le niveau. Vous pensez qu'avec ça on peut résoudre le problème et améliorer la situation. Merci beaucoup de ces propositions. Vous êtes à Kikwit, Franck maintenant est en ligne de l'Allemagne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à son excellence Monsieur le ministre Macermo, que nous suivons vos intérêts.
Voilà, vous avez suivi notre problématique. Les soucis, c'est de dégager les pistes de solutions pour améliorer la situation du taux des réussites à l'examen d'État. Quel est votre niveau de contribution?
Merci beaucoup pour le choix de ce sujet. D'abord, nous devons reconnaître qu'il est difficile à une personne de récolter en abondance là où elle n'a pas bien semé ou là où elle n'a pas aménagé les conditions de la récolte. Puis, par rapport à notre pays, au-delà des efforts visibles du ministre, l'on cesse de décrier la baisse au niveau de notre système scolaire, disons la baisse du système éducatif dans l'ensemble, quoi. Alors, par rapport au sujet que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, je trouve personnellement que des précautions adéquates doivent être prises en amont et en aval pour l'ensemble du territoire national. Parce que ce qu'on est en train de dénoncer, c'est pas seulement pour la ville de Kinshasa, mais c'est pour l'ensemble du territoire. Alors, si des précautions sont prises seulement pour la ville-province de Kinshasa pour cette année, en 2014, on aura encore à organiser des émissions avec le même sujet. Donc, on risque de refaire les surplaces. Là, je m'en vais directement aux suggestions parce qu'il faut gagner le temps. Donc, nous devons d'abord chercher, nous tous Congolais, le ministre nous entend, les Congolais l'ont toujours dit, qu'on doit d'abord réhabiliter, valoriser les rôles et le métier de l'enseignant. Donc, en réhabilitant, en valorisant les rôles ou le métier de l'enseignant, le ministre sait mieux que nous qu'on doit allouer un budget conséquent et proportionnel aux besoins de ce secteur. Puis, on doit aussi restaurer les systèmes de contrôle. Il y a des inspecteurs, il y a des conseillers pédagogiques, il y a des chefs d'établissement. Et nous cessons de nous demander si tous ces gens prennent leurs responsabilités au sérieux et se mettent au travail pour l'avenir de la jeunesse congolaise. Et une autre suggestion, c'est la sélection du corps professoral. Monsieur Pierrot, on ne peut pas demander, on ne peut pas exiger à un enfant d'obtenir 75% aux examens d'État si cet enfant n'a pas été bien préparé, si cet enfant n'a pas été bien enseigné dans les classes antérieures. Parce que les résultats des examens d'État, c'est la moyenne de tout ce que l'enfant a eu, de tout ce que l'enfant a bénéficié pendant son parcours. Alors moi je trouve que c'est un peu difficile d'exiger aux enfants un rendement de qualité. Et si ce rendement ne leur a pas été offert de la base, de les écoles primaires, donc c'est comme si on parle d'un monsieur qui veut se rendre à côté de la lune mais qui n'a pas encore diffusé. Donc c'est un peu ça.
Voilà, merci beaucoup Franck. J'ai retenu 4 points. Vous avez dit qu'il faut réhabiliter, valoriser le métier de l'enseignant. Il faut un budget conséquent alloué au secteur de l'éducation. On pourra voir avec notre invité le niveau du budget aujourd'hui consacré à l'enseignement, les contrôles du travail qui est fait sur terrain, mais aussi la sélection du corps professoral. L'ensemble de ces mesures peut aider à améliorer la situation. Nous avons Sylvain qui nous appelle des Bougnes en province orientale. Bonjour Sylvain.
Bonjour Pierrot, bonjour à vos invités, bonjour aux auditeurs et aux auditeurs.
Oui Sylvain, nous parlons en termes de nous, c'est l'émission, c'est vous auditeur et nous, c'est pas notre invité, c'est l'invité de l'émission Parole aux auditeurs. Cela veut dire que l'invité est l'invité de vous auditeurs et nous présentateurs. On vous écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation Sylvain?
Je pense d'abord que la première des choses qu'il faut retenir, c'est que l'assainement entre dans la politique générale et la politique de la nation. Ça veut dire que la politique au sein de l'assainement doit être liée aux problèmes de la société congolaise. Ça, c'est le premier élément. Puisque lorsque vous lisez l'article 202 de la Constitution, il y a parmi les grandes compétences du pouvoir central, il y a aussi l'établissement des principes de règles de l'organisation de l'assainement en RDC. Puisque nous sommes dans un système qui tend vers la décentralisation, les mêmes compétences sont données aux provinces pour essayer d'organiser l'assainement au profit des besoins communautaires, c'est-à-dire au profit des problèmes qui regorgent la société congolaise. Je pense que vous avez invité, monsieur le ministre, que je salue et que je félicite, puisqu'en fait, c'est parmi quand même les ministres qui se débrouillent bien que mal. Mais je suis en train de faire un bilan à ce qui concerne les objectifs de l'enseignement congolais vis-à-vis des grands problèmes de notre société. Et là, je me dis que, à partir du cycle d'orientation de nos chers enfants, de nos chers petits frères, petits frères, il semble que le choix n'est pas objectif. Pourquoi un enfant peut aller faire l'humanité pédagogique, ou bien la section commerciale, la biochimie, la technique sociale? C'est ça la plus grande question qu'on doit se poser, puisque le ministre a épinglé au début des questions matérielles que je ne refuse pas. La condition des salles de classe, la formation de l'enseignant, la formation de l'élève lui-même, la prise en charge de l'enseignant, tout ça, ce sont des vrais problèmes. Mais lorsque vous observez l'objectif de l'enseignement congolais, il me semble que nous sommes loin de l'objectif. Essayez de voir les deux pays, les grands deux pays du monde, la Chine et les États-Unis. Pourquoi la politique de l'enseignement doit être organisée c'est au profit des besoins de la société. Et je pense que là, la RDC a échoué. Et je ne pense pas que là, le ministre va me contredire. Puisque, lorsque déjà nous sommes à deuxième CO, l'enfant choisit une section pour choisir. Il arrive à la fin du compte que l'enfant arrivé à sixième ne connaît pas pourquoi il est à sixième. Et même si l'État lui décernait un diplôme d'État, c'est là où j'ai toujours dit que le diplôme d'État n'est pas un loisir. Le diplôme d'État sanctionne la formation d'un individu apte à aider la société à aller de l'avant. Donc, M. Perron, je pense que, au-delà de tout ce que le ministre aurait dit et ce que Franck de Vienne a dit, et votre auditeur de Kikwit proposer des questions en ce qui concerne l'organisation matérielle de l'enseignement, moi je pense que les vrais problèmes doivent rentrer d'abord au niveau de l'organisation objective. Je dis de l'organisation objective, ça veut dire l'objectif de l'enseignement congolais. Jusqu'à ce qu'on découvre que quels sont les vrais problèmes du Congo, auxquels on veut donner quelle méthode. Alors à ce moment-là, on va réorganiser le système d'organisation des tests nationaux pour que les tests si on a besoin des problèmes congolais, et alors il n'y aura pas question de l'évaluation des taux de réussite ou d'échec. Mais tout simplement, l'enseignement va répondre aux besoins de la communauté et les diplômes seront octroyés par rapport à ces besoins-là. Merci, c'est ça, et c'est mon intervention.
Merci beaucoup, Sylvain. Nous avons Mwembo, qui est Sakamina et Séraphin Bujumbura. Vous allez garder la ligne, le temps à notre invité de pouvoir réagir à ces premières propositions des auditeurs. Je rappelle encore à nos auditeurs que nous nous penchons aujourd'hui sur les voies et moyens pour améliorer les taux de réussite à l'examen d'État, vu les taux de 52% pour la ville de Kinshasa cette session 2013. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? 081-890-6315.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Monsieur le ministre, vous avez suivi nos auditeurs. On a regroupé presque. Ils sont revenus sur les choses qui se ressemblent. Mais il y a aussi ce que j'ai retenu, c'est par rapport à notre ami Arsène de Kikwit qui a dit. Et le premier pas à faire, c'est reconnaître d'abord nos erreurs dans tout ce que nous avons fait, dans le système comme nous avançons. quelles ont été nos erreurs. C'est à partir de ces erreurs-là que nous pouvons corriger et l'ensemble des préoccupations des auditeurs que vous avez notées ensemble avec moi.
Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je suis très content des interventions de nos trois intervenants, celui de Kikuit, Franck qui a appelé de l'Allemagne, et Sylvain de Bougnia. Oui, voilà. Donc nous partageons avec eux les mêmes préoccupations. En ce qui concerne les erreurs, c'est l'évaluation que nous faisons. Quand on fait une évaluation, on voit les forces et les faiblesses. Et on essaye de corriger les faiblesses afin d'améliorer le système. Et je crois que nous l'avons fait. Parce qu'aujourd'hui, les ministères, le gouvernement a toute une stratégie pour développer le système éducatif congolais. Donc aujourd'hui, et les interventions du gouvernement, les interventions de la société civile, les interventions de nos partenaires extérieurs, rentrent dans le cadre de la stratégie. C'est parce que nous avons fait une évaluation, nous avons fait une étude pour examiner tout ce qui se passe dans notre système éducatif et comment améliorer ce système éducatif. Donc là, nous sommes d'accord avec lui et ça existe. Et le document, la stratégie, elle existe. Il peut même demander aux responsables de l'EPSP qui sont à Kikuit, ils peuvent lui donner les copies de ces documents parce qu'ils sont disponibles. En ce qui concerne, je n'aimerais pas que régulièrement qu'on résume le problème de l'éducation au niveau du traitement de l'enseignant. C'est vrai qu'il faut faire un effort pour que l'enseignant, qui est vraiment l'élément moteur, l'élément des bases dans l'amélioration, dans les systèmes éducatifs, mais il ne faut pas qu'on résume tout. Vous pouvez avoir un enseignant, vous lui donnez de très bons salaires, mais si vous n'avez pas de bibliothèque, l'enseignant n'est pas formé, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. C'est pourquoi nous disons, à côté des efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre pour améliorer tant soit peu, petit à petit, chaque année on essaie de faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie de l'enseignant, de l'autre côté, nous devons faire un effort aussi pour que l'élève, l'enseignant lui-même travaille dans un environnement propice, dans un bon environnement, dans un bel environnement. Il faut qu'on fasse un effort aussi pour que l'élève puisse facilement retrouver quand même une bibliothèque qui sache où il peut avoir les manuels, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme manuel pour lire. Donc on ne peut pas laisser l'enfant comme ça parce que nous devons nous concentrer sur le traitement des salaires des enseignants. Donc il faut vraiment voir les problèmes de l'enseignement d'une manière holistique en prenant en compte tout ce qui concourt dans l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Et nous sommes conscients de ça. Comme je l'ai dit à notre ami Arsène, nous avons une stratégie et cette stratégie nous permet d'aborder les problèmes dans l'ensemble. C'est ainsi que petit à petit, avec les moyens que le gouvernement est en train de mettre à notre disposition, les choses sont en train quand même de changer. Nous partageons vraiment presque totalement ce que Franck a dit de partir de l'Allemagne. C'est vrai qu'il faut valoriser le métier de l'enseignant et nous sommes en train de le faire. Les budgets est de plus en plus conséquent parce qu'aujourd'hui nous partons de 1% des années 90. Aujourd'hui, en tout cas, le budget tourne autour de 14%. Nous espérons que l'année prochaine, il va augmenter et petit à petit, nous nous approchons de la moyenne africaine. Le contrôle, il est à plusieurs niveaux. Comme je l'ai dit au début de l'émission, le contrôle est exercé aussi par la communauté, là où est installée même l'école. C'est pourquoi nous avons dit, il n'y a pas que le chef d'établissement que nous désignons, nous, comme collaborateur pour gérer l'école, qui participe à la gestion de l'école. Nous avons, au niveau de chaque école, un comité de gestion où vous retrouvez les parents, même les élèves. Il faut que chacun arrive à assumer ses responsabilités. Il faut que les parents qui sont là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, il faut qu'ils décident, ils se réunissent. Si, imaginez un peu que les parents dans une assemblée générale disent non, ce chef d'établissement ne nous aide pas à améliorer la qualité de l'enseignement. Nous avons appris qu'il y a des manuels, mais nos enfants qui viennent à la maison nous disent qu'on n'utilise pas ces manuels. Mais nous allons aussi prendre nos responsabilités vis-à-vis de ce chef d'établissement. Donc c'est un problème qui doit nous impliquer, nous intéresser, nous tous. Nous tous, nous devons savoir que l'école, comme nous l'avons toujours dit au ministère, c'est un bien de la communauté. Nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour veiller sur le bon fonctionnement de l'école. Le problème de la sélection des enseignants, étant donné qu'il y a la modicité des salaires, c'est difficile que nous mettions beaucoup plus l'accent sur la sélection. Ce qui est important, c'est que nous prenons ces enseignants, nous voyons s'ils répondent à un certain nombre de critères, mais nous devons mettre l'accent sur la formation de ces enseignants. Vous voyez, nous devons mettre l'accent sur la formation et le recyclage de ces enseignants pour qu'ils nous donnent le meilleur de nous-mêmes. notre ami Sylvain, je crois que là, il n'y a rien à dire, parce que c'est vrai que l'enseignement doit répondre aux besoins de la société. Mais là, nous avons un choix à faire, parce que nous sommes confrontés à deux problèmes. Il y a certaines personnes pédagogues spécialistes qui pensent que la formation doit aller dans le sens de former l'individu à répondre aux problèmes de la société. Il y en a qui pensent qu'il faut former quelqu'un pour qu'il soit apte à réaliser une activité dès qu'il termine sa formation, comme notre ami Arcel l'a dit. Est-ce que quand on termine la sixième année secondaire, on est prêt à exercer telle activité? C'est difficile. C'est difficile. Alors, nous pensons qu'on peut aller avec les deux. Nous donnons la théorie à nos élèves, nous leur donnons le moyen, les outils nécessaires pour que, devant le problème de la société, ils arrivent à donner des réponses appropriées.
Oui, mais vous avez parlé la situation, les efforts pour améliorer la situation des enseignants. Quand on regarde le deux derniers mois, presque entre le mois d'avril, le mois de mai aussi, le mois de juin, la période pendant laquelle on devait passer les examens, en province, on a eu beaucoup de problèmes. Des enseignants qui ont déserté les écoles, qui sont partis à 100 km pour aller chercher leur salaire, qui ont couru derrière les opérateurs de téléphonie cellulaire. Et ces déplacements, on peut dire, c'est arrivé simultanément avec la période où on devait passer les épreuves. Qu'est-ce qui doit être fait, parce que pas plus tard que ce matin, nous apprenons qu'à Cabinda, par exemple, 143 enseignants qui sont partis de très loin, qui sont arrivés pendant qu'ils arrivent, l'opérateur qui devait les payer en bas les histoires rentre en Boujimaï, et ils sont là, ils ne savent où aller. On se rend quand même compte qu'avec la bancarisation qui résout le problème, a aussi perturbé la fin de l'année scolaire, et surtout en ce qui concerne les provinces.
Oui, enfin, nous sommes dans le gouvernement inconscient, ils sont en train de réfléchir là-dessus, faire une évaluation. Je crois que d'ici là, des mesures idoines seront prises pour permettre aux enseignants de percevoir leur salaire là où ils travaillent. Parce que nous avons toujours demandé à ce que l'enseignant ne parcourt pas de longues distances pour percevoir son salaire. Le gouvernement est conscient de ça, on est en train de tout faire pour que la situation rentre dans l'ordre.
Et est-ce que cela a eu aussi une influence?
C'est l'évaluation qui pourra nous donner les résultats. Qu'est-ce qui est vraiment à la base de la baisse des résultats? C'est vrai que c'est arrivé vers la fin de l'année. Nous allons faire une évaluation, on verra qu'est-ce qui est à la base de ça.
Vous avez pris la mesure, en attendant, on va revenir là-dessus, par rapport aux mesures qui ont été prises pour sanctionner les chefs d'établissement, par exemple à Kinshasa, qui ont enregistré des résultats qui ne sont pas satisfaisants. On va revenir là-dessus, avant qu'on aille écouter on va écouter d'abord les auditeurs qui sont sur les antennes, on va revenir à ça, parce qu'il y a des sanctions qui sont quand même tombées. On va comprendre pourquoi avoir puni les chefs d'établissement. Est-ce qu'il faut seulement punir les chefs d'établissement, faut-il aussi remonter vers les inspecteurs? Les punitions doivent être orientées. Comment on va évoquer ça? On écoute d'abord Mwembo qui est à Kamina dans la province du Katanga. Bonjour Mwembo. Mwembo, vous êtes avec nous, bonjour. Le temps qu'il puisse s'activer sur sa ligne, on écoute Séraphin qui nous appelle de Bujumbura. Bonjour Séraphin.
Bonjour Tonton Pierrot, bonjour à son excellence Monsieur le Ministre.
On vous écoute Séraphin.
Merci de l'opportunité que vous m'accordez, mais à l'entrée du jeu, je voudrais d'abord féliciter un neveu, Jean-Claude Bassombo, qui a distingué avec 78 pour ça, cette épreuve de l'examen d'État. Au collège des jeunes de Kinshasa, vraiment mes sincères félicitations à ce neveu-là. Alors, à l'entrée du jeu aussi, je voudrais dire ceci, parce que si vous essayez un peu d'analyser la réalité, le niveau intellectuel de nos élèves, de nos petits aujourd'hui, vous constaterez même que 50% là, c'est trop. Il y a un auditeur qui a le soulevé, et je voulais aussi le soulever. Il y a vraiment des mots qui gangrènent l'éducation de notre pays. Donc, la première des choses, il y a un auditeur qui a encore relevé là, il a dit qu'il y a la mauvaise orientation des élèves. Ça, c'est un problème très sérieux. Moi, je me rappelle à notre époque, quand nous avons étudié, il y a l'école elle-même qui orientait les élèves dans des cycles d'orientation, compte tenu de l'application même de cet élève. Parce qu'un élève qui est fort en mathématiques, qui est fort en français, l'école saura dans quelle section l'affecter, dans quelle section l'orienter. Mais aujourd'hui, vous constaterez, il y a l'élève qui arrive à l'école, c'est l'élève maintenant qui impose aux autorités de l'école l'orientation, ce qui n'est pas du tout à fait logique. Donc le ministre, son excellence, monsieur le ministre, doit s'attarder dans cette problématique. Il y a aussi des problèmes de passation des classes par la corruption. Il y a des élèves qui ont échoué dans telle école. Ils partent, dans chaque année, ils changent l'école. Il a échoué dans telle école, l'année prochaine, doit faire le bulletin frauduleux pour notre école, il y a aussi ce problème. Et autre problème aussi, c'est que je voudrais évoquer, c'est un problème, la viabilité de l'école. Ça, vraiment, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, doit s'y atteler. Parce que, qu'est-ce que j'ai remarqué? Il n'y a même pas une semaine, quand je dis à Ouvira, parce que c'est à Ouvira où je vis, il y a un ami qui m'a fait appeler, me dirait que non, c'est la fin, voilà, vous allez m'aider, j'ai déjà l'agrément d'une école, je voulais ouvrir l'école. Mais moi, je dis, ce n'est pas possible, ça, c'est que le jour était. Donc, vous avez déjà une école, l'agrément dans la poche, alors que les mecs n'avaient même pas une école, mais l'agrément était déjà dans la poche. Ça, c'est quelle anarchie, son Excellence, Monsieur le ministre. Donc, ça, vous devez vraiment s'y atteler. On ne peut pas octroyer des agréments de PLML comme ça. Ce n'est pas très logique, son Excellence. Vous devez vraiment vous y atteler. Il y a aussi un autre problème que je voulais évoquer et que je voulais évoquer. Il y a aussi un problème des enseignants. Vous remarquerez un enseignant qui enseigne dans 5 à 6 écoles. Imaginez-vous, l'avant-midi, il est dans telle école et l'après-midi, il est dans telle école pour chercher la survie. C'est vrai, c'est bon. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous sommes conscients qu'il faut améliorer la condition de vie des enseignants. Mais néanmoins, on ne peut pas démissionner. On ne peut pas démissionner parce qu'on n'a pas une bonne rémunération. Au terme de démissionner, alors on est de détruire l'éducation des peuples, des enfants congolais. Raison pour laquelle son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, doit aussi s'y atteler. Parce que là, ce n'est pas tout à fait logique. Il y a des enseignants qui enseignent dans 10 à 5 écoles. C'est grave. Quelle éducation ces enfants doivent acquérir, les enfants, tout en étant fatigué, l'enseignant, qu'est-ce qu'il va enseigner à ces enfants-là? C'est tout à fait anormal. Il y a aussi un problème que je voudrais aussi demander
oui, rapidement, à ce moment-là. Oui, Séraphin, allez-y rapidement parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs hein, sur le standard. Terminez rapidement en 30 secondes.
Oui, à 30 secondes, je voudrais dire ceci. Son Excellence, Monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, il a constaté que beaucoup de gens ont échoué, beaucoup d'élèves ont échoué. Il doit nous rassurer parce qu'il y a des écoles qui inscrivent les élèves qui ont échoué à 100 dollars. Il doit nous rassurer. Si on demandait à telle école, on demandait pour la restriction des élèves qui ont échoué, que lui doit sanctionner ses préfets et qu'il nous dise même comment l'atteindre pour que nous puissions dénoncer des cas où on demandera 100 dollars, 150 dollars pour l'inscription.
Merci. Merci, Séraphin. Je retiens vraiment des choses hein, qui, dans votre propos. Il y a les problèmes des mauvaises orientations, ça, c'est ce qui se pose. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des conseillers pédagogiques dans les écoles pour orienter les élèves au choix des sections? C'est la question qu'on va demander tout à l'heure à notre invité. Il y a le problème des enfants qui changent d'école. Il a échoué dans une école, il achète un bulletin et chaque année, il change d'école. Il y a ces problèmes des viabilités des écoles, les écoles même qui fonctionnent et les agréments. Votre ami qui a déjà son agrément dans la poche et qui cherche où installer son école, et vous demandez au ministre de pouvoir ouvrir l'œil par rapport à cela. Les enseignants qui cumulent, hein, un enseignant qui parcourt 3-4 écoles, est-ce que cela est permis? On va voir. Mais le problème aussi des élèves qui ont échoué, qui vont être inscrits dans d'autres écoles moyennant 100 dollars, et vous voulez savoir comment atteindre le ministre pour lui passer l'information. Merci beaucoup, Séraphin. Nous avons Eric qui est à Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour, Eric.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à son Excellence, monsieur le ministre.
On vous écoute, Eric.
Oui, bon, je voulais aussi intervenir à propos de l'échec qui est vraiment généralisé en RDC, vraiment. Nous déplorons vraiment l'échec, moi je pense qu'il est partagé. Hein, il y a d'une part notre enseignement qui est vraiment en détérioration très très avancé. Il y a aussi les élèves, d'autre part. Premièrement, j'allais parler des élèves, c'est-à-dire quoi? Moi, je prends un exemple. J'avais étudié avec un ami là. On était en quatrième. Le monsieur, la même manière, il avait connu l'échec. Et directement, il avait quitté la quatrième pour aller en sixième dans une autre école. Et par miracle, il est allé là-bas directement, il avait satisfait. Je me demandais vraiment jusqu'à présent comment est-ce qu'il avait quitté, hein, enjambé, disons, les classes. D'autre part, c'est un exemple aussi que je voudrais donner. Moi, je suis ingénieur électromécanicien. Et j'avais connu un ami étudiant qui avait fait le préparatoire et puis le premier graduat. Mais la vie l'avait compliqué. Directement, il s'est transformé en enseignant. Lui, il est maître physicien aux humanités. Et directement, il donne cours jusqu'en sixième, même à présent là, sixième mécanique générale et mécanique automobile là. Maintenant, je me demandais comment est-ce qu'un tel monsieur peut donner un bon encadrement aux élèves mécanicien, tant que lui-même n'est pas technicien. C'est-à-dire quoi? Je voudrais demander au ministre s'il peut instaurer les systèmes qui peuvent contrôler hein, un système électronique, je ne sais pas si c'est possible. Un élève qui a connu l'échec dans une école X, directement, son échec peut le poursuivre partout où il ira. Donc ça se fait comme ça peut se faire comme nous avons les cas de l'électeur. Si quelqu'un a fraudé dans une ville, il peut facilement être repéré dans une autre ville. C'est un peu ça, un peu ma grande préoccupation.
Merci beaucoup, Eric. Vous avez beaucoup insisté hein, sur le fait que les gens changent en jambes des classes, des promotions. Mais le problème aussi des recrutements, celui qui n'a pas réussi à l'université, qui s'est transformé en enseignant dans une section où il ne peut pas vraiment donner cours comme il faut. Vous demandez comment est-ce qu'il faudrait contrôler surtout les cas des élèves frauduleux, ceux qui changent de classe et qui, à la fin, ont des problèmes d'échec. Merci beaucoup. Nous allons terminer cette deuxième série d'auditeurs avec Lambert qui est à Kinshasa. Bonjour Lambert.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à son excellence monsieur le ministre.
On vous écoute, qu'est-ce qui doit être fait Lambert?
Oui, avant de proposer quelques pistes de solutions, j'aimerais un peu souligner quelques aspects en rapport avec notre thème d'aujourd'hui. Voilà, la responsabilité de cette faible réussite, moi je le partage un peu à trois catégories. Je vois le ministère de l'enseignement primaire et professionnel, je vois les parents de l'autre côté, ainsi que les élèves, sans oublier les gestionnaires des écoles. Je commence par le ministère. À l'époque, monsieur le journaliste, nous, on connaissait, il y avait un comité là, je ne sais pas si c'était organisé au niveau national, c'est provincial, qu'on appelle des CECOP à l'époque. Ces gens avaient comme mission descendre dans les écoles, observer ce qui est en train de faire, apprécier la viabilité de l'école. Si on trouve que non, cette école ne remplit pas des conditions peut-être exigées, directement, sans même pas attendre, on supprime cette école. Et les enfants sont obligés de chercher peut-être une autre école pour terminer l'année. C'était un bon système à l'époque que le directeur, les enseignants avaient même peur de blaguer avec leur système de gestion ou soit d'enseignement, puisqu'ils avaient peur que d'un moment à l'autre, il y aurait un inspecteur qu'on appelait à l'époque un sécopé. Mais pour le moment, actuellement, ce n'est pas le cas. Tout le monde peut ouvrir une école s'il y a un peu de moyens et commencer à se dire promoteur, si nommer ça complexe scolaire de tel. Et c'est un problème. Les écoles sont en train de pousser comme des champignons, surtout à l'intérieur du pays. Surtout à l'intérieur du pays, puisque là, il y a un peu de cas flagrants. Il se pose aussi un problème de suivi, mais président, essayons un peu de souligner. Moi, il y a des cas concrets des responsables, des directeurs généraux, donc un directeur général d'une institution supérieure, qui le disait que non, comme j'ai encore des moyens, je dois faire en sorte que mes enfants puissent terminer les écoles bien en temps. Et à troisième des humanités, il nous prend. Il nous a pris pour présenter les examens d'État. Et nous étions obligés de présenter ça. Et ces enfants, ils ont un diplôme. Ils sont en train d'étudier comme les étudiants. Et ils continuent les études supérieures. Alors qu'ils se sont limités à troisième des humanités. Ça, c'est un problème. Par rapport aux gestionnaires, regardez un peu la qualité. La sélection des enseignants et les gestionnaires des écoles. À l'intérieur du pays. Un décis qui vient de terminer, pas même pas une année de stage ou quoi, directement il est professeur, il donne cours de premier jusqu'en sixième. Ça c'est un problème. Les parents, l'implication c'est comme si les parents essaient de laisser que non, c'est le gouvernement, c'est ceci, c'est le préfet. Non, ils ont aussi pas de responsabilité. Ils doivent aussi s'impliquer dans le système éducatif de notre pays. Conscientiser, montrer aux enfants, voir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que les enfants sont en train d'apprendre à l'école. Et ils sont même des orientés, chercher même les cours d'histoire si on trouve que les enfants ont quand même certaines faiblesses. Et par rapport aux élèves, les élèves n'étudient plus actuellement, monsieur le journaliste. En sixième année, c'est très difficile pour trouver un élève qui est en train d'étudier, puisqu'ils se sont, ils se rangent souvent avec les inspecteurs pour organiser les familles, laboratoires. Et on dit non, à la fin, il y aura des items qui seront sortis, qu'on va travailler, on va nous envoyer ça à travers les policiers. Et ça, c'est un problème. Et pour proposer, monsieur le journaliste...
Terminez rapidement.
Oui, pour proposer, je voulais un peu proposer quelques éléments à son excellence, monsieur le ministre. Il faut qu'il puisse d'abord assainir les milieux scolaires. Assainir les milieux scolaires, supprimer les écoles là qui ne fonctionnent pas avec les normes, et puis les dirigeants amorphes, ainsi que les enseignants qui n'ont même pas de qualité de dispenser cours ou soit de transmettre les matières aux élèves. Et pour les parents, ils doivent s'impliquer, sensibiliser les enfants, leur montrer que non, le destin de notre pays, c'est entre leurs mains. Ils doivent aussi comprendre que non, on est dit non seulement pour la vie, mais pour aussi pour votre propre vie personnelle.
Merci, merci beaucoup Lambert. Vous avez dispatché ses responsabilités au niveau du ministère, les parents, les élèves et même les gestionnaires des écoles. Tout a été bien noté parce que cela nous conduit directement à voir les mesures qui ont été prises de manière conservatoire déjà pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'on a relevé tous ces problèmes. Vous avez insisté sur l'assainissement, la suppression des écoles, mais aussi les dirigeants qui sont fautifs. Nous vous disons merci pour ça. Aloïs, vous êtes à Kananga. Et Franklin Bukavu, gardez la ligne. Nous allons revenir à vous. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, je reviens à vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi, nous avons continué à relever les problèmes, hein, mais déjà, ces problèmes nous conduisent déjà aux sanctions, parce qu'on dit qu'il y a ces écoles qui ne sont pas viables, ces préfets qui posent problème dans la gestion des écoles. Il y a même le problème des orientations. Est-ce qu'il y a encore des conseillers pédagogiques pour aider les enfants à savoir quelle section ils doivent prendre, les enfants qui enjambent de classe? C'est que au niveau aussi local, il y a des problèmes sérieux qui se posent. Mais parce qu'il y a eu ces échecs à Kinshasa, nous avons appris que vous avez décidé de punir les préfets des écoles. Mais pourquoi les punir? Quel type de punition? Comment vous orientez un peu tout cela pour que cela puisse avoir des résultats efficaces prochainement?
Oui, merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à remercier vraiment vos auditeurs, ceux qui ont pu, qui nous suivent, qui vous suivent et qui nous permettent aussi d'améliorer notre système éducatif, parce que bon, c'est, considérons dans la plupart des cas, la plupart des questions qui ont été évoquées, des interventions qui ont été soulevées, en tout cas ce sont des interventions, des contributions à l'amélioration de notre système éducatif. À ce qui concerne, par exemple, M. Séraphin, qui appelle de Bujumbura, je suis d'accord avec lui en ce qui concerne peut-être les problèmes qui se posent au niveau de l'orientation des élèves. Ça se pose au niveau des parents, au niveau de l'élève, mais aussi au niveau de l'offre. Vous avez parfois un élève qui est dans un coin assez reculé et dans les environs, vous n'avez pas toutes les options données qui permettent à l'enfant de s'épanouir comme il faut. C'est ce qui fait parfois qu'on envoie carrément l'enfant dans une école alors qu'il n'a pas des qualifications, enfin des qualités naturelles pour mieux étudier dans cette école-là. Donc c'est un problème général. Nous espérons que plus les moyens sont mis à notre disposition, plus nous sommes en train de voir comment nous pouvons avoir beaucoup plus d'écoles, beaucoup plus d'options. En tout cas, ça permettra à chacun de choisir où il peut étudier, où il peut vraiment s'épanouir comme il faut. Le problème d'identification, c'est un problème qui a été aussi évoqué par notre ami, je crois, Lambert. Hein?
Lambert, oui.
Lambert, oui. C'est vrai. Et là, nous avons la réplique que nous avons, c'est le problème d'identification des élèves. Nous avons amorcé un processus qui consiste à donner à chaque élève un numéro matricule. Et ces numéros matricules suivent l'enfant durant tout ce cursus scolaire. Alors ça nous permettra de voir un enfant qui a tel numéro, pourquoi il a quitté telle école pour aller à telle autre. Et ça nous permettra quand même d'améliorer, de casser ce système de bulletins frauduleux comme il a pu l'évoquer et qui fait que l'enfant, il y a certains enfants au niveau des écoles et qui passent d'une classe à une autre. Mais ça s'est fait avec la complicité aussi des parents. Donc nous demandons aux parents d'être assez conséquents. S'il fait ça pour son enfant, il veut que l'enfant devienne qui demain dans la société? C'est pas correct. Donc il faudrait que nous soyons aidés aussi par le parent. Mais à un autre niveau, voilà les différentes mesures que nous avons prises. Pour les élèves qui ont échoué, toujours pour notre ami Séraphin, nous avons pris la décision que ces enfants soient réinscrits sans payer quoi
parce qu'il y a des préfets qui veulent bien qu'on change aussi des écoles. Il a échoué dans une telle école, il va dans une autre école, il paye l'argent, il est intégré directement.
Non, nous avons demandé la mesure qui a été prise sur demande d'instruction du gouvernement, c'est que ces enfants, ceux qui ont échoué, ça fait quand même 48% pour la ville de Kinshasa. Ça. Nous attendons d'ici là avoir des pourcentages globaux sur l'ensemble du pays. C'est quand même beaucoup. Donc nous avons pris la mesure que tous ces enfants se fassent réinscrire dans leurs écoles sans condition, sans préalable, sans quoi que ce soit, sans condition. Voilà ce qui concerne Séraphin. Les cumuls, nous constatons que les cumuls en ce qui concerne les enseignants, nous constatons que nous avons très peu d'enseignants spécialisés dans différents domaines. C'est ce qui fait que parfois, on a tendance à ce que telle école, pour améliorer la qualité de l'enseignement, fasse recours à tel autre enseignant qui est spécialisé dans telle matière. Mais nous demandons à ce qu'on organise au niveau de différentes entités, qu'on organise ce que nous appelons les cellules pédagogiques. À ce moment, on pourra retrouver les enseignants dans une cellule pour permettre aux autres, à ceux qui sont moins bons, de s'améliorer leur qualification. Bon, je prends notre ami
Et je crois que
les mêmes préoccupations. J'apprécie beaucoup l'intervention de Lambert, les responsabilités au niveau des parents, gestionnaires, élèves. Les élèves, si nous, au niveau des ministères, au niveau du parent, au niveau des gestionnaires, nous sommes assez corrects, nous faisons bien notre travail, je crois que les élèves vont suivre, il n'y a aucun problème. On ne peut pas trop nous attaquer aux élèves. Les élèves font ce qu'ils utilisent nos faiblesses. Donc il faut que nous soyons assez corrects pour permettre à ces enfants de répondre à leur...
Oui, mais par rapport au régime des sanctions à Kinshasa, vous avez pris la mesure des
punitions. En tout cas, à Kinshasa, nous avons pris une série de mesures. La première mesure, c'est pour rentrer un peu dans ce que Lambert vient de dire. Nous avons pris une mesure sanctionnant au moins 200 chefs d'établissement dans la ville de Kinshasa.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a absence de résultats. Vous ne pouvez pas être chef d'établissement et vous n'avez pas de résultats. Nous avons évalué ce qu'ils ont fait cette année par rapport à l'année passée, à l'édition 2012 de l'examen d'État. Nous avons constaté que ce sont les chefs d'établissement qui donnent toujours des résultats néants. Ce n'est pas normal. Les enfants, les parents ne peuvent pas donner de l'argent. Envoyez l'enfant dans votre école pour que vous n'encadriez pas bien les enseignants, vous n'encadriez pas bien ses élèves et donnez de mauvais résultats. Donc ces enseignants, nous avons toute une série de d'écoles, 110 à Kin-Est, nous avons par exemple l'école Miss Révérend Mwanda, groupe scolaire d'Iavanga, plus de 200 dans la ville de Kinshasa. Mais nous ne suspendons pas seulement les chefs d'établissement, mais nous suspendons aussi les comités des parents. Hein, toujours pour rentrer dans ce que M. Lambert a dit. Parce que quand vous êtes là, délégué par les autres parents pour veiller au bon fonctionnement de l'école, il faut prendre ses responsabilités. Quand ça ne va pas, il faut pousser même à ce qu'il y ait une assemblée générale, demander au chef d'établissement de modifier sa manière de travailler. Donc, nous suspendons et les chefs d'établissement, mais aussi les responsables du comité de parents dans ces écoles. Mais nous allons remonter. Nous irons maintenant au niveau des INSPOUL, au niveau des sous-provettes, pour qu'on voit pourquoi ils n'ont pas su...
Est-ce que ce sont des écoles privées, des écoles conventionnées, des écoles publiques?
C'est des écoles, pour la plupart, on constate que pour la plupart, en tout cas, plus de 70% sont des écoles privées. Pour la plupart, 70%. C'est pourquoi je reviens à ce qu'un auditeur a dit en ce qui concerne le salaire des enseignants. C'est pour dire qu'il n'y a pas que le salaire, parce que dans des écoles privées, généralement, les enseignants sont quand même mieux payés que dans les écoles privées. Mais ils donnent de très mauvais résultats. C'est qu'il y a un problème d'encadrement qui est très important, sur lequel nous devons revenir. Donc nous avons cette série, 200 écoles dans la ville de Kinshasa.
On ne saura pas citer, ils sont très
Ils sont très nombreux, mais nous allons mettre ça à la disposition de médias. Et tous les parents doivent savoir que, pour envoyer leurs enfants là-bas, ils doivent savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de ces différentes écoles.
On va écouter les trois derniers auditeurs rapidement. Marcel Etakisangani, Aloïs Akananga et Franklin. On commence avec vous, Aloïs, vous êtes à Kananga. Peut-être comme on est acculé par le temps, dans 40 secondes, Aloïs, votre point de vue, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Pierrot et je salue son excellence Monsieur le ministre.
Allez-y rapidement, on vous écoute.
Oui, merci de la parole. La situation passe qu'aujourd'hui nous analysons sur base des statistiques de Kinshasa, mais d'emblée nous retiendrons que la situation sur l'ensemble du territoire national est la même, parce que nous l'avons suivi en Boujmaï, il y a grincement des dents. Mais j'aimerais là évoquer moins trois causes donc sur base de quelle je veux aussi vous faire trois propositions.
Rapidement, Aloïs, parce que trois causes, trois propositions,
oui, oui. On aura... Il y a premièrement le manque d'éthique pédagogique. Là, je salue en passant mon professeur Martin Bokole qui, dans son cours d'éthique et d'ontologie professionnelle, disait qu'il y a de l'éthique professionnelle dans les domaines d'enseignement si l'enseignant ou le professeur demande nécessairement à l'étudiant ou à l'élève seulement que ce qu'il a enseigné pendant les cours. Mais ce que nous, sinon, ça serait ce que nous appelons l'éthique, plutôt le piège éthique. Alors aujourd'hui, moi, je pense à mon humble avis et dis que tout ce que nous constatons aujourd'hui par rapport aux examens d'État, ce n'est que du piège éthique. Pourquoi? C'est pour la simple et bonne raison que, là, j'attaque le deuxième point. Le programme d'enseignement est maintenu au niveau de Kinshasa là-bas. Mais qu'en est-il de sa vulgarisation, monsieur Pierrot? Par rapport à ce qui concerne aussi le recyclage des cadres enseignants. Nous savons que dans les milieux rurales, par exemple, les anciens ne sont pas recyclés pour pouvoir mettre à bien le programme national sur place. Vous voyez que c'est aussi un problème. Le troisième point, c'est ce qui concerne aussi les élèves, même parce que la responsabilité doit être bien partagée. Les élèves négligent, ils oublient le point très nécessaire selon lequel la bonne réussite doit se préparer selon donc dès le bas âge. Donc ils négligent en attendant que pendant les examens, la main du ciel puisse tomber. Donc
merci beaucoup, Aloïs. On a retenu trois propositions intéressantes, mais excusez-nous de vous interrompre parce que là, on court derrière le temps. Il reste deux auditeurs et l'invité pour conclure. Nous allons aussi accorder la parole rapidement à Franklin, qui nous appelle de Bukavu. Bonjour Franklin.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à monsieur le ministre.
En 30 secondes, oui, on vous écoute, oui.
Et tous les auditeurs ont dit, et je sais bien les petites propositions, mais il faudrait aussi souligner au ministre Gant aussi faire plus attention pour essayer de délisser les réseaux massifs. Parce que pendant notre approche de la période des examens, il y a un réseau qui circule dans la ville, ici à Bukavu, avec des questionnaires. Ils disent non, c'est ça les items qui vont venir. Et effectivement, il y a certains élèves finalistes qui témoignent que non, ce qu'ils ont eu comme avant les examens, c'est ce qu'ils ont trouvé à l'examen. Et donc, le ministre doit aussi avoir cette commission-là pour essayer de dénicher ces réseaux matières-là.
Merci beaucoup. Merci Franklin. Il faut aussi dénicher le réseau mafieux qui fait circuler les questionnaires, ce qui fait aussi tomber les élèves dans les pièges. On termine avec vous rapidement, Marcel. Vous êtes à Kisangani. En 30 secondes, hein, votre proposition, Marcel.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Je pense que nous devons nous atteler sur la thématique liée à la formation et qualité d'enseignement, plutôt que de se pencher beaucoup plus sur la réussite massive telle que souhaite le ministre, puisque à bien analyser les mesures conservatoires qu'il a infligées au chef d'établissement, et cela sous-tend justement que le ministre souhaiterait à ce qu'il y ait réussite massive, mais sans tenir compte des élèves ayant réussi massivement. Qu'est-ce qu'ils ont acquis, qu'est-ce qu'ils ont pour ce pays, et sont-ils à même de défendre le titre qu'ils ont acquis, et cela pour l'avenir de ce pays. Je pense
merci,
que c'est un
merci
niveau
beaucoup,
que nous devons
voilà,
beaucoup nous appeler, et de souhaiter que des réussites massives.
Merci beaucoup Marcel. Vous souhaitez qu'on puisse plus s'intéresser à la qualité, plutôt qu'on se réjouisse qu'il y ait beaucoup des réussites. Nous revenons à vous, monsieur le ministre, pour terminer cette émission en une minute, et demi, on a écouté les uns et les autres. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les gens voudraient voir vraiment la situation s'améliorer, quand bien même on ne doit pas tomber dans les pièges des réussites massives, comme l'a dit Marcel tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et par rapport aussi à la lutte contre les réseaux mafieux qui font circuler des faux questionnaires, pour terminer cette émission.
Oui, merci beaucoup. Je crois que nous partageons encore une fois le point de vue de nos différents intervenants. J'aimerais tout simplement, en ce qui concerne Aloïs, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour Franklin, le réseau mafieux à Bukavu, il faut qu'il tienne compte des arnaqueurs. Il y en a beaucoup. Chaque fois, nous avons constaté que chaque fois quand nous nous approchons de la date de la passation des épreuves de l'examen d'État, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, il faut que les élèves ainsi que les communautés soient assez vigilantes. Ce sont des gens qui veulent juste se faire de l'argent. Et même les élèves qui disent que c'est les mêmes examens, c'est pas vrai ce qui se passe au niveau de... Nous avons constaté que ce n'est pas vrai. En ce qui concerne Marcel, je voulais dire que quand nous donnons cours pour que les enfants réussissent, c'est pas pour qu'ils échouent. C'est-à-dire, si nous avons beaucoup plus de réussite, c'est bon, c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Donc, réussite, c'est-à-dire, ils ont réussi à nos examens, c'est pas que nous donnons les diplômes gratuitement, c'est pas vrai. J'aimerais tout simplement utiliser votre tribune pour dire qu'aujourd'hui, les résultats de Lubumbashi, dans Nord Kivu et Katanga 1, Maniema, Équateur 4, Kasai Occidental 2, Nord Kivu 2, et Bandundu 2 seront disponibles. Donc aujourd'hui, nous publions les résultats des provinces que je viens de citer.
Voilà, nous vous disons merci, monsieur le ministre Makir Mongo, d'avoir accepté notre invitation et commenter ces sujets avec les auditeurs de Radio Capi. On se retrouve demain, mardi, pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Le 6e sommet des chefs d'État de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, s'est tenu le mercredi dernier à Nairobi, au Kenya. Dans son message d'ouverture de ces sommets, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a particulièrement insisté sur la nécessité d'un processus politique et crédible pour résoudre la crise congolaise et de lutter sans merci contre les causes profondes de l'insécurité dans les Grands Lacs. En plus, il a recommandé aux délégations du gouvernement congolais et aux rebelles du M23 de faire diligence pour conclure le pourparlers de Kampala. Que pensez-vous de ces propositions du numéro 1 des Nations Unies? On se retrouve demain à 11h de Kinshasa pour en parler. Au revoir.